Le débat africain. Alain Foucault.
Ce devait être le remède miracle pour en finir avec cette propension de certains dirigeants à s'accrocher au pouvoir. Cette disposition avait fait ses preuves dans quelques grandes démocraties. C'était, pensait-on, la solution idoine pour assurer l'alternance. Et pourtant, depuis quelques années maintenant, elle est devenue l'une des principales causes des crises sociopolitiques. Les hommes politiques, les dirigeants forts ayant trouvé les combines les plus efficaces pour la contourner, pour faire sauter ce verrou. La modification, certains diraient, le tripatouillage des constitutions. Après les crises qui ont ensanglanté ces derniers mois la Guinée et la Côte d'Ivoire, elle est désormais clairement au centre du débat politique. La limitation des mandats présidentiels est-elle un gage de la démocratie? Ce principe importé ces dernières décennies des grandes démocraties occidentales est-il applicable et adapté à l'Afrique? Quelle est son efficacité réelle? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la question de la limitation des mandats présidentiels en Afrique, avec plusieurs invités, tous au téléphone. D'abord, Monsieur Alioune Tine, le président du think tank Africa Jom. Il est en direct de Dakar au Sénégal. Bonjour Alioune Tine.
Bonjour.
Notre second invité, en direct cette fois-ci de Kigali au Rwanda, est un confrère, reporter, analyste politique de région Grand Lac, Monsieur Albert Oudatim Bourroy. Bonjour Albert.
Bonjour, bonjour.
Troisième invité de ce plateau du débat africain consacré à la limitation des mandats, Yann Gwet, entrepreneur et essayiste camerounais, auteur de « Et si Kagame était un signe noir », mais également de « N'ayons pas peur de toucher aux constitutions ». Il est en direct de Kigali, la capitale rwandaise. Bonjour Yann Gwet.
Bonjour.
Notre quatrième invité aujourd'hui est un écrivain guinéen très prolifique également, Thierno Monenembo, prix Renaudot 2008 et grand prix de la francophonie pour l'ensemble de son œuvre en 2017. Il est en direct de Conakry. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Alors j'ai envie de commencer tout de suite en disant, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose, la limitation des mandats? Ma question s'adresse d'abord à Thierno.
Oui, mais moi je pense que, en fait, cette limitation des mandats était faite dans l'urgence. C'était une nécessité presque physiologique. En Guinée, par exemple, pendant 50 ans, on a eu deux présidents. J'ai donc dit, mieux vaut limiter le nombre de mandats pour essayer de faire en sorte que le pouvoir personnel ne dure pas un ou deux siècles. Mm-hmm. C'était une urgence, beaucoup plus qu'une pensée philosophique ou politique. Mm-hmm.
C'est-à-dire après avoir eu Sékou Touré et Lansana Conté,
52 ans.
52 ans de président.
À mon avis, c'est thérapeutique ça, cette limitation des mandats. Sinon, c'est la dictature légitimée.
Donc pour vous, c'était une urgence et c'est important.
Absolument, mais cette urgence-là doit devenir maintenant une nécessité et doit être inscrite dans les lois et dans les coutumes politiques de l'Afrique. Il faut en arriver là, puisque tripatrier les institutions, prolonger les mandats présidentiels aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Ça manque de tout, ça manque d'esthétique, ça manque de morale, ça manque de vertu politique.
Mais ceux qui la font vous trouvent toujours des explications pour justifier leur acte. Alioune Tine, est-ce que vous êtes du même avis? Est-ce absolument nécessaire de ne donner que deux mandats?
Absolument, totalement du même avis. D'abord pour la respiration de la démocratie, et puis ensuite pour permettre effectivement d'avoir de nouvelles têtes, une nouvelle génération. Sinon, quand effectivement vous ne limitez pas le mandat, vous avez immédiatement une dictature en Afrique. Vous n'avez plus d'état de droit. Vous avez la concentration des pouvoirs entre les mains d'un seul homme. Et en même temps, puisque effectivement il n'y a pas de possibilité de contrôle, vous avez une mal-gouvernance, une mauvaise gouvernance, comme on a l'habitude de le dire, et vous avez tout de suite la formation de prédateurs qui profitent à la fois des institutions et également des ressources du pays.
Mais ça n'est pas lié qu'au nombre de mandats. Je veux dire, il y a des dictateurs qui sont là seulement depuis deux mandats et qui ont fait pire que ceux qui étaient là depuis 50 ans.
C'est vrai, mais on a la possibilité, le peuple a la possibilité, quand vous ne travaillez pas bien, de vous renvoyer. C'est ça la souveraineté du peuple. C'est ça son choix.
Yann Gwet, est-ce que vous pensez que c'est absolument nécessaire de se limiter à deux mandats? Est-ce que c'est un gage de protection de la démocratie?
Écoutez, moi je pense qu'il faut revenir à la question, aux questions fondamentales. La démocratie, pour moi, c'est le pouvoir du peuple. C'est ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas l'alternance, qui elle est une conséquence de la démocratie, mais elle n'est pas la démocratie. qu'elle soit souhaitable ou pas, ça c'est une autre question, mais la démocratie en tant que telle, sous le principe, c'est le choix du peuple. Et donc, si il s'avère que le peuple, dans un contexte où, c'est là le fond du débat à mon avis, dans un contexte où les procédures sont crédibles, transparentes, etc., s'il s'avère que le choix du peuple est de reconduire le même homme chaque année pendant 10 ans, 15 ans, ma foi, on reste dans le cadre de la démocratie. Et par conséquent, il me semble que le fond du débat, même si je comprends évidemment le contexte actuellement en Afrique, je viens moi-même d'un pays où le président est là depuis 38 ans, et il est clair que...
Le Cameroun.
38 ans de trop, pas le Cameroun. Je pense qu'il faut malgré tout parvenir à sortir du contexte actuel, si on veut avoir un débat sérieux, et poser la question non pas du principe du changement de constitution, qui à mon avis, pour moi, n'est pas un principe à discuter, mais plutôt des procédures, de la manière dont les choses se font. Pour moi, c'est là qu'est le vrai débat.
Albert Oulatim-Bourroy, chez vous, le président est là aussi depuis un certain moment déjà. Pensez-vous que le principe de deux mandats est un bon principe au Rwanda?
Mais je crois que je vais plutôt dans la ligne un peu comme Yann, Goethe, qui vient de... Parce que la vraie question, c'est la question de la démocratie. Bon, non seulement c'est une question de volonté du peuple, mais c'est aussi une question de construction de cette démocratie. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de cette démocratie, il n'y a pas que la présidence, et qu'il y a donc plusieurs institutions qui doivent jouer leur rôle. Le principe de limitation ou de pouvoir, au moins, se limiter est défendable. Mais la priorité, ce sont toutes ces institutions, tout ensemble, qui permettent justement à ce que la volonté du peuple soit, si à un certain moment le peuple trouve que...
Oui, mais lorsque le chef est très fort, on sait très bien que le peuple, la voix du peuple ne compte pas, que très souvent dans les urnes, c'est la volonté du chef qui s'exprime.
Oui, oui, mais donc justement, qu'on dise qu'il faut trois mandats ou pas, si le chef est très fort, il va passer outre. Donc la question est vraiment une question de construction de cette démocratie. Donc ce n'est pas simplement ce mandat-là, ce sont toutes les institutions. Qu'est-ce que vaut l'armée? Qu'est-ce que vaut le corps du service public? Et tout cela, qu'est-ce que vaut la justice? C'est tout ça qui doit aller ensemble. On ne peut pas rien que dire que c'est une question de limitation de mandat. Et dans le cas du Rwanda, oui, et quand on parle de l'Afrique, on ne peut pas tous mettre tout le monde dans le même sac.
Oui, mais vous savez que tous les dirigeants disent ça, hein, qu'on ne peut pas regarder de façon globale, chacun est une singularité.
De toute façon, et c'est pour ça que je fais... Le Rwanda, qu'on connaît aujourd'hui, n'est pas l'héritier de la colonisation, de l'indépendance, etc. Il y a une rupture. En 1994, quand le FPR vient en fait au pouvoir, c'est quand même un mouvement de libération qui a fait une guerre de libération, qui a gagné cette guerre. Et qui, à partir de ce moment-là, hérite aussi du drame du génocide et d'une nation qu'il faut recoller ensemble. Donc, il s'est passé quelque chose dans lequel les Rwandais ont eu quelque chose, leur mot à dire. Et de là, justement, en fait, les résultats du Rwanda, c'est aujourd'hui la période la plus longue qu'a connue post-indépendance, de paix à l'intérieur même de ce pays. Depuis 1994 jusqu'aujourd'hui en 2020, au moins il y a un flux continu de développement et de constitution de ces institutions dont je vous parlais. Donc c'est une situation complètement différente de, par exemple, de la Guinée ou du Sénégal.
Mais dans le même temps, Albert, quand on dit ça, on se dit, là vous parlez d'un homme providentiel, c'est-à-dire on a le sentiment qu'il y a des textes qui doivent être, on va dire, faits pour les hommes providentiels. Les cimetières sont pavés des gens indispensables. Est-ce que vous ne pensez pas que là, vous fabriquez tout simplement un dieu, un prophète, quelqu'un qui est très fort, pour qui la loi n'a pas de raison d'être?
Mais qui parle que la loi n'a pas de raison d'être? Parce que justement, c'est ça tout le principe de cette transformation. Parce que depuis la guerre, on nous parle de ces dictateurs qui sont là depuis les années 60, etc. Mais c'était une époque de guerre froide, où chaque camp soutenait à fond un dictateur. Après la fin, la tombée du mur, etc., on a commencé à parler, ah, il faut maintenant démocratiser, et on est en train de transformer. Mais ces sociétés ne se sont jamais formées. Mmh. Au Rwanda, c'est un cas tout à fait à part. Donc, ce n'est pas une question, oui, il y a une exceptionnalité, les résultats sont là, le peuple a choisi. Tout ce qu'on va vous raconter.
Mais vous savez que tous les Rwandais ne pensent pas ça. J'espère que vous êtes quand même conscient. Voilà.
Bien entendu. Mais en attendant, je veux dire, il y en a eu assez pour que tout se passe en paix. Ce qu'on voit comme les Rwandais, surtout qui ne sont pas d'accord, ce sont des Rwandais qui ont la majorité ont trempé dans les événements qui sont passés entre 90 et 94.
Donc il y en a qui sont quand même beaucoup plus jeunes. 94, c'est pas hier. Ce qu'on a entendu et ce qu'on lit sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément de la période du génocide. Je reviens à vous dans un instant, mais j'ai envie de donner la parole à Aluntine qui peut réagir à ce que vous venez de dire.
Écoutez, d'abord c'est la notion de peuple qui est d'abord improbable, comme disait l'autre. Les gens, ils manipulent le peuple. Tous, ils disent que c'est le peuple. Est-ce que c'est le peuple aujourd'hui? C'est ce que dit Alassane Ouattara, c'est ce que dit Alpha Condé. Moi, je pense que une fois que vous êtes installé vraiment pour la vie, il n'y a plus d'institution, il n'y a plus d'état de droit, il n'y a plus de contre-pouvoir. Vous êtes maître absolu. Et ça fait partie des talons d'Achille de Kagame. C'est la vérité. Il y a une bonne gouvernance, certes, mais c'est impossible pour un opposant d'être en face de Paul Kagame et de gagner des élections en face de lui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Nous adorons Kagame.
Oui, mais là, on vous dit que s'ils ne peuvent pas gagner, et je pense que c'est l'idée qu'émettait à l'instant Albert, que s'ils ne peuvent pas gagner, c'est parce qu'il a un bilan.
Non, il a un bon bilan, tout le monde le reconnaît. Mais, comme on dit, ce n'est pas un dieu. Et on connaît aussi le sort qui est réservé aux opposants. On le sait, hein. Ce n'est pas au sort qui est quand même celui d'un pays où la démocratie existe, où la compétition existe. Parce que quand on parle de démocratie aussi, c'est la compétition pour aller au pouvoir. Et ça, franchement, c'est un grand problème que nous avons avec Kagame. C'est un grand problème que nous avons au Cameroun. Regardez le Cameroun. Vous avez la guerre partout. Vous avez la corruption. C'était le pays le plus corrompu au monde. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de possibilité de contrôle. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est là depuis très longtemps, qui est très âgé, et qui, aujourd'hui, on n'a même pas l'impression que c'est lui qui contrôle. C'est comme une espèce de potiche qu'on a mis là. Et puis, c'est d'autres. Et sur d'autres bases, effectivement, on gère un pays. Et puis, il y a un problème que nous avons remarqué. En Afrique de l'Ouest, on avait la démocratie, parce qu'il n'y a pas eu cette espèce d'explosion de ressources d'un coup. Il y a beaucoup de ressources qui arrivent. À partir de ce moment-là, vous voyez, sur le plan national, les gens, ils disent, tiens, on va gérer le pétrole, on ne va pas laisser le pétrole. Et puis aussi, ceux qui veulent le pétrole, ils se disent, mais si on a affaire à des pays qui sont faibles, où il y a la guerre, où les gens se tapent dessus, mais on se baisse et on ramasse.
Restons dans la question de la limitation des mandats. Avant de donner la parole à Yann Gouet, j'entendais Albert en fond qui avait envie de réagir rapidement.
Non, je veux dire, je crois qu'il y a une totale ignorance sur la situation du Rwanda. Bon, premièrement, il n'y a pas de guerre au Rwanda. Je venais de dire que ça fait depuis 1994 jusqu'à maintenant, c'est la plus longue période que les Rwandais ont vécu en paix. Et c'est un peu insultant de croire que les Rwandais se seraient cons au point tel qu'ils iraient aux élections, que les gens de l'opposition, je ne vois même pas de quoi. Donc, on est dans une société qui se reconstruit après une grave crise nationale, dans laquelle les voisins ont tué d'autres leurs voisins. Donc, il faut reconstruire cette fabrique de société. Et justement, c'est ça que les Rwandais apprécient. Donc, je ne dis pas que Kagame, c'est le modèle pour qui est pour le Rwanda, pas du tout. Mais ce que les gens ont expérimenté eux-mêmes aujourd'hui de l'exprimer. Donc, mais même là-dedans, dans ce troisième mandat qui a été accordé, on est retourné à un système qui, après ce mandat exceptionnel, dans une limitation de mandat. Donc tout ça est
oui, mais dans le même temps, si on avait un mandat exceptionnel, on pourrait en faire un autre qui soit exceptionnel. On connaît un peu le principe. Et même si vous voyez la particularité du Rwanda, dans chacun des pays, le chef vous dit, c'est particulier, le désir de faire un autre mandat s'explique toujours. Hein, je veux dire, en Côte d'Ivoire, récemment, on l'a entendu, en Guinée, on l'a entendu. Tierno Monenembo, je vais vous donner la parole dans un instant, mais je voulais que Yann Gwet réagisse à ce qui a été dit sur les deux points.
Écoutez, moi rapidement, je voudrais deux points. Le cas du Cameroun, par exemple, monsieur Tine a parlé de la longévité du président Biya comme étant la source du chaos. Moi, je voudrais faire relever que, de mon point de vue, en tout cas, le président Biya n'a pas attendu 38 ans pour, disons, si vous voulez, pour être un gouvernant qui, à mon avis, est un gouvernant. Disons, de piètre qualité. Le problème du Cameroun, c'est ce n'est pas tant la longévité, qui, à mon avis, est plutôt une conséquence de la, plutôt qu'une cause. Le problème, c'est que le président Biya, depuis le début, est un mauvais gouvernant. Et donc, évidemment, plus il s'éternise et plus les problèmes se manifestent. Mais le problème de fond, je pense qu'il ne faut pas faire la confusion entre les deux. Le problème de fond, de mon point de vue, dans le cas du Cameroun, en tout cas, c'est un problème de gouvernance qui est défaillante et qui est défaillante depuis le début. La deuxième chose, c'est que concernant le président, le cas du Rwanda, je m'inscris en faux également contre l'idée que je crois avoir été exprimée par là également par M. Tine, selon laquelle, quel que soit finalement le bilan d'un président, etc., il faut qu'il parte au bout d'un moment. C'est une position que je trouve évidemment plutôt dogmatique et qui me semble également antidémocratique. Encore une fois, de deux choses. Soit on est pour le principe, je dis bien le principe, après il faut s'entendre sur les conditions dans lesquelles les choses se passent. Mais soit on est d'accord sur le principe de la démocratie, et donc que le peuple est en dernier ressort le juge de la manière dont les choses se passent. Et auquel cas, il faut qu'on accepte l'idée que dès lors que les règles sont claires, qu'il y a un consensus politique, que des institutions sont consensées et fonctionnent, que le peuple, puisse s'exprimer, y compris dans le sens du plébiscite d'un président qui a plusieurs mandats. Et troisième chose, avant de laisser la parole, je pense qu'il faut, par conséquent, revenir à la question de fond, qui est, qui me semble qu'on a en Afrique francophone en particulier, on a le cas de la consécration de l'arbitraire. Et une consécration de l'arbitraire qui me semble assez évidente dans le cas de la Guinée récemment, de la Côte d'Ivoire et d'autres pays auparavant. Consécration de l'arbitraire qui me semble venir, si vous voulez, de la place extravagante qu'occupe l'État dans nos sociétés. L'État est en ce sens extrêmement de toute puissance. Les États sont omnipotents chez nous par rapport au peuple. Et ça fait en sorte, si vous voulez, que les dirigeants chez nous ont toute latitude pour littéralement faire ce qu'ils veulent. Mais la question qui est donc posée, c'est la question du rapport de l'État au peuple. Plus qu'à mon avis, la question de l'unité et pas les mandats. Voilà.
Thierry Monenembo, à cette réflexion, est-ce que vous partagez le point de vue de Yann Gwet qui estime que la question n'est pas la question de la limitation des mandats, mais la question en réalité de la pratique du pouvoir, en gros, je schématise.
Le nombre de mandats en tant que tel n'est pas important. On peut fixer un mandat, deux mandats, trois mandats, quatre mandats, et une seule condition, que les règles établies soient respectées. Et à commencer par ceux qui sont chargés de les appliquer. Voilà le grand problème de l'Afrique. C'est que les gens qui perdent serment, c'est des constitutions, c'est les premiers à les violer. Ça, c'est quelque chose d'inadmissible.
Oui, mais on a le sentiment que lorsqu'on touche à la Constitution, tout de suite, c'est considéré comme violé. La Constitution, il y a des dispositions pour changer la Constitution.
C'est de violer une Constitution. Tous les grands pays du monde qui fonctionnent régulièrement sont des pays qui respectent leur Constitution. C'est des pays qui sacralisent leur constitution. Le moindre amendement aux États-Unis coûte très cher en débat juridique, philosophique, etc. etc. Ce n'est pas le premier venu qui fait du n'importe quoi. Les règles s'appliquent à tout le monde, monsieur. À partir du moment où le premier qui arrive fait ce qu'il veut, c'est la jungle.
On va vous donner la parole dans un instant, dans la seconde partie du débat africain, pour développer votre pensée. Est-ce que le troisième mandat, est-ce que la limitation des mandats est vraiment nécessaire? Et si elle est nécessaire, comment faire qu'elle devienne une règle que tout le monde ne bafoue pas à chaque fois que les élections approchent? On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute. We'll be right back.
Le débat africain. Alain Foucault.
Les deux techniques sont désormais éprouvées. Elles marchent à tous les coups. Et ces dernières années, ils sont nombreux à l'avoir utilisé pour rester au pouvoir, pour briguer un troisième mandat. La première, je modifie la Constitution et je fais tout simplement sauter les dispositions qui limitent le nombre de mandats. C'est le cas, par exemple, de Yoweri Museveni de l'Ouganda, de Paul Biya du Cameroun, de Denis Sassou Nguesso du Congo, d'Idriss Déby du Tchad. La seconde, plus subtile celle-là, consiste à procéder à une modification de la Constitution au cours de son second mandat, de conserver les dispositions relatives à la limitation des mandats à deux, mais de considérer qu'avec la nouvelle Constitution, les compteurs sont remis à zéro. Ainsi, on peut repartir pour deux mandats supplémentaires. C'est le cas en Guinée avec Alpha Condé, en Côte d'Ivoire avec Alassane Dramane Ouattara, au Rwanda avec Paul Kagame, au Togo avec Fognia Sigbé, à Djibouti avec Ismaël Omar Guelé et j'en passe. Des stratégies qui, ces dernières années, ont été au centre des crises et parfois des tragédies, comme plus récemment en Guinée et en Côte d'Ivoire. Désormais se pose de plus en plus la question de savoir si la limitation à deux des mandats est vraiment possible en Afrique francophone notamment. Quelle est son efficacité réelle? Est-elle adaptée aux réalités socio-politiques locales? Si oui, comment la rendre intouchable? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à la limitation des mandats en Afrique, avec plusieurs invités tous au téléphone. D'abord M. Alioune Tine, le président du think tank Africa Jom, il est en direct de Dakar au Sénégal. Notre second invité, en direct cette fois-ci de Kigali au Rwanda, est un confrère, reporter, analyste politique, région Grand Lac. Monsieur Albert Oudatim Bourroy, il est journaliste. Troisième invité de ce plateau du débat africain consacré à la limitation des mandats, Yann Gouet, entrepreneur et essayiste camerounais, auteur de « Et si Kagame était un cygne noir ?» mais également de « N'ayons pas peur de toucher aux constitutions ». Il est en direct de Kigali, la capitale rwandaise. Notre quatrième invité aujourd'hui est un écrivain guinéen très prolifique, Thierno Monenembo, prix Renaudot 2008 et grand prix de la francophonie pour l'ensemble de son œuvre en 2017. Il est en direct de Conakry. Alors, dans la première partie, on a terminé en évoquant le fait qu'il fallait peut-être envisager un autre moyen pour protéger ces constitutions-là. Est-ce que toucher à la constitution en elle-même, c'est le problème? N'est-ce pas le fait que l'on s'acharne essentiellement sur la question de la limitation du mandat et quelquefois sur l'âge du capitaine? Là, je reviens vers Thierno Monenembo.
La limitation du nombre de mandats est une bonne chose, à mon avis. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais le plus important, le plus tragique en Afrique, à mon avis, c'est l'application des règles établies. Comment voulez-vous permettre à quelques personnes de violer des règles qui sont censées faire appliquer? Comment voulez-vous que la loi devienne la chose d'une personne? Parce que je suis au pouvoir, je fais de la Constitution ce que je veux. La Constitution américaine est sacrée. Mais Donald Trump ne peut pas, il essaie aujourd'hui de faire comprendre qu'on lui a volé son élection, mais il y a des règles aux États-Unis que tout le monde applique, en tout cas le maximum de gens appliquent. Et sans ça, on s'en sortira pas. Il faut des règles qui s'imposent à tout le monde. C'est ce qui nous manque en Afrique.
Mais on apporte des amendements à la Constitution. Est-ce qu'on ne sacralise pas trop ce texte fondamental?
On est obligé de sacraliser la Constitution pour que le système démocratique puisse fonctionner. On aurait cru, nous, que l'arrivée des intellectuels comme Alpha Condé, Alassane Ouattara au pouvoir aurait justement nous aurait permis justement de vivre régulièrement le système démocratique. Parce que c'est des gens qui ont fait des études. Ils ont fait des études de Sciences Po, des études d'économie. Ils savent ce que c'est que les règles modernes de la vie en société. Et ce sont les premiers à les violer. Ça, c'est désespérant.
Yann Gouet, je pense que sur ce point-là, vous n'êtes pas vraiment d'accord. Pour vous, on peut toucher à la Constitution, c'est pas ça la question.
Oui, moi, j'ai nuance sur ce point. J'estime que la Constitution est un texte qui n'a pas de raison d'être sacralisé dans la mesure où il est rédigé par des hommes dans des contextes particuliers. Et sur le principe, je ne vois aucune raison pour laquelle, dès lors que le contexte change, qu'il ne soit pas normal, si vous voulez, d'adapter la Constitution aux évolutions du temps. Pour moi, ce n'est pas vraiment ça la question. Pour moi, encore une fois, la question, c'est la manière dont les choses se passent. Donc, ce n'est pas la, pour reprendre le terme de monsieur Monenembo, ce n'est pas la Constitution qu'il faut sacraliser. Ce sont les règles, ce sont les procédures, ce sont les institutions qu'il faut sacraliser. Dès lors qu'on parvient à faire émerger un consensus, c'est la manière dont les choses se passent. Sur les institutions censées réguler le jeu démocratique. C'est ce consensus qu'il faut obtenir, qu'il faut faire émerger.
Mais vous voyez très bien qu'on a du mal à arriver à un consensus. Lorsque vous regardez comment on touche à ces constitutions, notamment cette disposition sur la limitation des mandats, il y a toujours une bagarre qui se termine par celui qui a la force, par celui qui est aux affaires. C'est peut-être pour cela qu'il y a une vraie crispation autour de cette question, non?
Je comprends tout à fait, mais c'est pour ça que je pense qu'il est important de bien poser le problème, de bien faire construire le problème. Le problème, pour moi, la constitution, ou le fait qu'elle soit régulièrement bafouée, et qui évidemment pose problème, et on comprend ça très bien, je pense que c'est la conséquence d'un problème de fond. Et le problème de fond, je l'ai dit, c'est la nature de nos États. Tant qu'on ne parviendra pas à revoir la nature de nos États, c'est-à-dire la relation qu'il y a entre les gouvernants, au fond, et les gouvernés, et donc les institutions qui fonctionnent, censées en tout cas fonctionner dans l'intérêt général, tant qu'on ne parviendra pas à renverser, si vous voulez, l'équilibre des forces dans nos sociétés, je pense qu'on aura toujours le problème qui se pose actuellement.
Je pense que ce n'est pas forcément le point de vue d'Aliountine.
Pas du tout. Le problème, d'abord, c'est la nature du pouvoir et la relation qu'on a avec le pouvoir. Quand on est accro au pouvoir, un accro au pouvoir, par exemple, comme quelqu'un comme Trump, ben écoutez, on peut s'en débarrasser avec les institutions qui sont fortes, avec le droit. Mais un accro au pouvoir comme Alassane Ouattara, mais il n'hésite pas. Il y a eu combien de morts ? Près de 80 morts depuis qu'il a déclaré qu'il va passer pour un troisième mandat. Quand effectivement aussi, Alpha Condé dit « je veux faire un troisième mandat », mais il fait le forcing parce qu'il a la force, parce qu'il a la puissance publique, parce qu'il a l'argent, parce qu'il a les institutions et que personne ne peut l'arrêter, aucune institution ne peut l'arrêter. Vous allez sur place, pratiquement, que ce soit le Conseil constitutionnel, il a enlevé un juge qui lui avait dit « écoutez, il ne faut pas effectivement toucher à la Constitution ». Il l'a enlevé tout bonnement. Donc c'est cette puissance-là qui fait que la démocratie est complètement faussée. Pour le reste, on dit le peuple. Écoutez, l'état de droit, ça existait pratiquement au Moyen-Âge, hein, mais nous, nous n'avons pas d'état de droit parce qu'en réalité, nous manipulons le droit, nous instrumentalisons le droit.
Mais est-ce que c'est l'apanage des Africains? Parce que partout, on voit essayer de tourner le droit ou de l'interpréter à son avantage. Est-ce que ça ne vient pas essentiellement du fait que bon, les institutions ne sont pas fortes?
Exactement, c'est parce que les institutions ne sont pas fortes. Et une fois que vous avez le système présidentiel que nous avons et que la France a, d'ailleurs la France devrait se réformer aussi, vous avez tellement de pouvoir, vous faites à peu près tout ce que vous voulez, absolument rien ne peut vous retenir. Que vous tuiez des gens, ça ne compte pas. Moi je me rappelle que quand du temps de Bokassa, on avait tué moins de gens, mais là, le UA à l'époque, ils se sont dit, mais il faut qu'on fasse une enquête, ce n'est pas tolérable. Mais là on tue 10 fois plus, 15 fois plus, et ça passe. Parce qu'effectivement, la vie d'un Africain, ça tient pour un fil. Ça ne compte pas, pratiquement.
Revenons à la question du troisième mandat, puisque ce thème-là, on peut le développer ailleurs. Albert Oudatim-Bourroy, aujourd'hui, avez-vous le sentiment qu'on a importé un modèle sur le continent qui n'est pas adapté à l'environnement? Cette question de la limitation des mandats.
Ce n'est pas simplement adapté à l'environnement, mais parce que quand je vous entends parler, c'est comme si on avait 200 ans d'institutions qui sont là et qu'on se débattait sur une question, est-ce qu'il faudrait un deuxième ou un troisième? On ne devrait pas tolérer un troisième mandat, comme par exemple aux États-Unis, à un certain moment, ils ont fait dans leur histoire de démocratie de limiter les mandats parce que ce n'était pas d'office là. Et il y a eu une exception avec pendant la guerre et tout ça, etc. Donc, en Afrique, est-ce qu'on en est vraiment là? Ben, justement, on dit, il faut qui? Mais qui va le faire? Donc, si les institutions ne sont pas là. On n'a pas, depuis notre indépendance, on n'a pas un modèle de gouvernance des institutions qui sont modèles et qui fassent que, par exemple, dans nos sociétés, il y ait des gens qui veulent aller dans le secteur public pour servir la nation, la société, et d'autres qui vont dans le secteur privé, etc. Ce n'est pas comme ça qu'on a évolué jusqu'à maintenant. On n'a pas encore ce business plan. Mais justement, je me permets de parler du Rwanda, qui est le cas que je connais depuis 1994. Et là, par exemple, entre 1994 et 2000, le Rwanda a évolué dans son niveau sécuritaire, mais n'avait pas nécessairement évolué dans son développement et dans les institutions. Et à cette époque-là, le président Kagame n'était pas président. Et donc, ce n'est que quand il y a eu un plébiscite que à l'époque, le ministre de la Défense, qui était Kagame, a accepté de devenir président.
Et les gens ont vu la différence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que...
Albert, quand on vous entend, on sent quelqu'un qui est pour Kagame, qui n'a vu que les bonnes choses, mais à l'international, il faut bien vous dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous dites et qui estiment que c'est le contraire. Donc, est-ce que c'est le supporter de Kagame qui parle ou est-ce que c'est le journaliste qui fait une analyse sur la question de la limitation des mandats?
Mais bien entendu, parce que ce que je suis en train de dire là, c'est qu'il y a une réalité des choses. Il y a un développement que... Mais il faut venir au Rwanda pour venir le voir. Voir c'est quoi l'ambiance qu'il y a dans ce pays. Mais on essaie d'avoir zéro tolérance sur la corruption. Ce qui veut dire que les gens qui sont dans la société, donc qui sont dans le service public, il a fallu éduquer les gens, les fonctionnaires qui commençaient depuis tout ce temps-là, qu'on n'est pas là pour manger. On est là pour servir la société.
Oui, mais dans le même temps, là, vous prenez le cas du Rwanda. Bon, je vous le concède, vous êtes sur place et puis vous avez votre opinion politique. Mais dans la plupart des pays dont on parle, où on a fait sauter ce verrou de la Constitution, il y a de la corruption, il n'y a pas de développement, il y a des assassinats, il y a des attaques aux libertés individuelles. Est-ce que ce n'est pas ce qui doit amener à réfléchir sur le modèle même d'alternance à la tête de ces États, puisque la plupart de ces États-là ont des dirigeants qui sont là depuis très très longtemps.
Mais Alain, s'il vous plaît, mais qui va le faire quand on dit « il faut » Parce que c'est ça la différence au Rwanda. C'est que justement, M. Kagame, il vient avec un mouvement, il n'est pas seul, il y a un parti, il y a une organisation. Donc les gens ont fait un mouvement et les gens se sont battus pour cela. C'est toute la différence dans ces autres pays. Dans les autres pays, on se demande « mais qui va le faire ?» C'est qui va faire ces investissements?
Yann Gouet.
C'est le plus fort gagne.
Bon, moi, je voudrais dire deux choses par rapport à ça. C'est que la première, c'est que faut quand même considérer le fait que les mentalités ont évolué aujourd'hui et que le débat qu'on a pour la plupart des Africains est tranché dans leur esprit. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, sont acquis à l'idée qu'il faut limiter les mandats. Donc, dans tous les cas, si jamais les choses doivent être faites différemment, il faudra certainement un effort pour convaincre la société.
Ah non, rassurez-vous, parce que pendant la préparation de cette émission, on a eu des gens qui disent on n'a pas besoin de limiter les mandats et que peut-être qu'il faudrait même partir vers une monarchie qui permettrait aux dirigeants d'avoir le temps de mettre en œuvre leurs projets. On en a rencontré quelques-uns.
Bon, très bien. Mais très bien, ça me permet de dire que, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, les mots que vous avez évoqués, qui sont tout à fait réels dans beaucoup de nos pays, la corruption, la restriction, la gabegie, etc., ne sont pas le fait de la longévité au pouvoir. Ils sont le fait de la mauvaise gouvernance, qui n'est pas la même chose. On peut très bien être, et on a plein d'exemples d'ailleurs qu'on pourrait citer, c'est pas la peine de le faire, mais on en a en tête, des gouvernants qui sont de leur accession au pouvoir, tout de suite se lancent dans la corruption, la répression, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Il y a un problème de gouvernance qui est très sérieux en Afrique, qu'il faut adresser en tant que tel, mais qui est, à mon avis, différent de la question de la longévité au pouvoir. Moi, c'est deux questions différentes. Je trouve un peu dommage que dans ce débat, d'ailleurs, on ne parle pas de la gouvernance. On parle de la longévité au pouvoir, qui souvent est la conséquence, ou plutôt qui pose problème, parce qu'elle est, en fait, la conséquence d'une mauvaise gouvernance.
On passe l'année à parler de la gouvernance, et je pense que le nombre d'émissions faites consacrées à la gouvernance, on ne peut pas les compter. Maintenant, la question spécifique de la limitation des mandats a causé des crises ces derniers mois. Chacun y a assisté et on compte des morts. Et les gens se posent la question de savoir, mais pourquoi a-t-on absolument besoin de limiter les mandats? Est-ce que ça correspond à notre réalité? D'où le thème. Alors, restons autour de ce thème en nous posant la question de savoir, est-ce que c'est efficace? Et lorsque l'on regarde, on a le sentiment que la plupart des pays où il y a des gens qui sont restés très longtemps au pouvoir, il n'y a plus de développement. Albert dit, dans le cas du Rwanda, oui, il y a le développement, tout le monde le voit. Mais c'est peut-être une exception, non? Vous êtes d'accord au moins avec ça?
Le cas du Rwanda est dans tous les cas une exception, parce que l'histoire même du Rwanda est exceptionnelle, elle est hors norme.
Donc on ne peut pas partir de là pour tirer la règle, pour définir la règle. Dans les autres pays, on a du mal avec ça, et les gens qui sont restés au pouvoir, on l'a constaté, sont plutôt dans la gabegie, dans le détournement, dans la corruption, et ne sont plus là pour le développement, ils ne promeuvent pas le développement. J'entends Aluntin, je crois, qui est en train de réagir dans le fond.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas évalué les transitions démocratiques qui ont permis à la fois le pluralisme et les alternances démocratiques. Et je pense qu'il faut le faire, une réflexion collective pour réinventer une démocratie qui soit adaptée à nos situations. Mais vraiment, il faut une réflexion globale. Mais ce qui se passe en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale avec vraiment des présidents à vie, l'exception c'est Kagame. Et Kagame, effectivement, beaucoup de gens se disent, écoutez, Kagame est resté longtemps, il a développé. Kagame a du leadership et puis a peut-être une éthique que les autres n'ont pas.
Et un projet.
Faut faire attention et dans une situation aussi d'exception avec le génocide. Et la plupart du temps, quand vous avez fait une guerre de libération, vous avez l'impression que vous êtes un dieu et puis vous devez vous éterniser au pouvoir. Kagame n'échappe pas à la règle. Regardez toutes les guerres de libération nationale. Quand les gens arrivent, ils sont des militaires, ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Tout ça, c'est des problèmes sur lesquels nous devons réfléchir ensemble pour voir comment nous pouvons faire évoluer nos systèmes démocratiques qui, aujourd'hui, quand même, sont dans une situation de régression profonde. Ce n'est pas seulement l'Afrique, c'est un peu partout dans le monde. Hein. Ça veut dire que peut-être qu'on a atteint une espèce de fin de cycle démocratique et il faut réinventer une autre.
Mais elle est pourtant toute récente, notre aventure démocratique. Thiernot, à l'instant, on écoutait Yann Gwet qui disait « il faut peut-être repenser le modèle. Il faut rentrer à nouveau dans les esprits des gens pour qu'ils ne pensent pas que forcément ce qui leur a été importé est le meilleur. Peut-être que la limitation des mandats n'est pas la solution. Est-ce que les gens sont prêts à l'entendre ? Et est-ce que c'est une réalité, Thiernot Monenembo ?
On n'a pas eu le temps de penser nos modèles. Je le disais au début, nous avons tout fait dans l'urgence. C'est certain, c'est notre handicap. Mais en même temps, cette urgence est gérable. Avec un minimum de nécessité politique, limiter les mandats, c'est vital parce que l'expérience de Sékou Touré, de Mobutu et d'autres nous a donné quelque chose de terrible, d'effrayant, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Il faut penser donc à la répartition du pouvoir, à la limitation du pouvoir. Il faut faire en sorte que n'importe qui en Afrique ait un minimum de possibilités puisse avoir accès à la parole et au pouvoir.
Mais là, j'ai envie de réagir comme Albert tout à l'heure en disant, quand on dit il faut qui ?
Il faudrait que, évidemment, c'est un travail global, c'est ouais. Tous qui devons le faire, pas seulement les intellectuels, c'est la société civile, les syndicats, c'est un travail d'ensemble qui ne fait que commencer. Pour l'instant, c'est vrai, il y a énormément de
Mais est-ce qu'on ne passe pas beaucoup de temps à pérorer, à déviser, à faire de la philosophie pendant ce temps, les choses s'aggravent ? J'aurais bien voulu que quelqu'un dise, voici comment ça doit se passer. Yann Gwet, vous qui êtes de la jeune génération, pour vous, comment on doit impulser ce nouveau mouvement, cette nouvelle façon de penser à faire la politique en Afrique, même si la limitation des mandats est importée et que vous n'y êtes pas totalement favorable. Comment on fait ? Qui change ? Comment ?
Puisqu'on parle de démocratie, alors il faut bien qu'on parle du peuple, des citoyens. On ne peut pas imaginer que la nécessaire réforme de nos systèmes politiques se fasse autrement que par un pas de puissant mouvement populaire. Et en réalité, il me semble que même si les choses tardent à se manifester, il y a quand même un mouvement d'ensemble dans beaucoup de nos pays qui vient donc de la société civile et qui est clairement un mouvement qui vise à la réforme de nos systèmes. On a vu le cas au Nigeria récemment de ENSA, ce mouvement de jeunes qui se sont mobilisés très fortement dans le cadre de cette campagne contre la fin des brutalités policières. Les mouvements qui, assez rapidement, revendications qui ont porté assez rapidement sur des questions beaucoup plus générales qui ont trait à ce dont on discute ici. On a vu le même phénomène dans beaucoup de nos pays. Donc je pense qu'il y a un mouvement de fond qui est intéressant, qui, à mon avis, doit être accompagné par les classes intellectuelles, médiatiques, et probablement avec, de préférence, un appui également des partenaires éventuels de la communauté internationale.
Pour vous, ça passe d'abord par un puissant mouvement populaire. Et pour vous, ce sont les jeunes, ces jeunes qui travaillent sur des réseaux qui sont différents de ceux qui, jusqu'à maintenant, portaient l'information. C'est bien ça, en gros.
C'est bien ça. Je ne vois pas comment on peut attendre un changement réel, crédible, qui ne vienne pas du fond de nos sociétés. Ça me paraît difficile.
On va terminer là-dessus. Malheureusement, le temps n'est pas extensible. On reviendra sur ce débat. On n'a fait que l'entamer, puisqu'il passionne pas mal de monde qui se demande pourquoi est-ce qu'on s'accroche toujours à cette histoire de troisième mandat. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à changer? Et puis aussi, est-ce que ce n'est pas la gouvernance qu'il faut revisiter, l'adapter à notre société? Merci en tout cas à vous d'avoir accepté de venir en débattre. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Restez à l'écoute et à très vite. Merci.